Tiens, tu veux un peu de café? Ça te fera pas de mal.
Tu as fait le café?
Cette fois, je l'ai fait.
Pas de capsule, on met le café directement et on coule le café rapidement. D'où le mot espresso.
Ma mère aussi faisait le café comme ça. Très chaud, très fort. Il est bon.
Choisissez aussi un café arabica plutôt que robusta. Le robusta contient aussi beaucoup plus de caféine. Le café est un bon produit, il y a beaucoup d'antioxydants dans le café, mais il ne faut quand même pas en abuser.
Mais ton café est franchement dégueulasse. Vous, les Français, vous faites vraiment un café de merde.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster, qu'on l'aime jusqu'à l'addiction ou qu'on le déteste, qu'on le préfère en expresso ou en café filtre, le matin ou le soir, amer ou acide, le café ne laisse personne indifférent, surtout en France, où l'on entretient une relation historique et passionnelle au café, un seul chiffre, 83% des Français en consomment. Grand-mère sait faire un bon café, le petit noir sur un coin de comptoir, la capsule qu'on glisse dans la machine à la maison, voilà, depuis des décennies, notre quotidien caféiné. Un petit détail près, le goût du café est en train d'évoluer et on va vous le prouver avec une nouvelle scène café en ébullition. La culture café en France, d'hier à aujourd'hui, eh bien on en discute avec deux invités, à commencer par Laurent Séminel. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé, Laurent, la maison d'édition Menu Frottin, spécialisée dans la gastronomie, et vous rééditez ce petit livre que je tiens dans ma main droite, La monographie du café, ou Manuel de l'amateur de café, un traité écrit par Germain-Étienne Coubard-Dolnay, publié en 1832, un manuel historique, scientifique, gastronomique, pratique. Je me suis régalé à sa lecture. Il raconte le café d'hier pour mieux comprendre le café d'aujourd'hui. C'est bien ça le message?
C'est exactement ça, oui, oui.
On va en discuter avec vous et c'est vraiment une lecture tout à fait passionnante. Tom Clark, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes australien et vous avez cofondé la torréfaction Coutume à Paris. C'était en 2010,
c'est et ça. On a ouvert notre premier point de vente rue de Babylone en 2011.
C'est ça, et votre objectif c'est de renouer avec le savoir-faire du café, ouvrir aussi les consommateurs français à de nouveaux goûts et de nouvelles habitudes. Coutume a même le vent en poupe, hein. Vous ouvrez de partout, c'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise.
Bah, nous sommes très enthousiastes, le marché a bien suivi cet engouement pour le produit tel qu'on était passionnés et le partage a fait que 10 ans plus tard, on a grandi un petit peu.
Et vous allez évidemment nous préparer, c'est aussi l'objectif de cette émission, nous préparer de délicieux cafés. On va voir qu'il ne faut pas beaucoup de matériel compliqué et pas très cher non plus. Le bon café serait peut-être accessible à tous. Dans la bande dont va déguster, je demande aujourd'hui notre chroniqueuse cuisinière Manon Fleury et l'un des sommeliers dont va déguster, Jérôme Gagnez. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Manon.
Oui, d'habitude, c'est Jérôme qui a l'esprit de contradiction et aujourd'hui, c'est moi, je crois. Et j'ai voulu vous proposer autre chose que du café,
et
un
oui,
peu différent.
Il paraît que Manon n'est pas vraiment fan de café. Peut-être qu'elle va se laisser convertir par Tom aujourd'hui, mais en tout cas, vous allez nous proposer une très très belle alternative, visiblement. Jérôme,
on va rendre le vin muet.
Oula, alors là, je suis perdu. Une énigme assez
c'est
compliquée.
Très difficile.
Hein. Ouais. Je vois que le niveau de vos énigmes...
On muscle un peu le jeu. Là.
C'est ça, se muscle de semaine en semaine. Exactement. Pour tous les contenus de l'émission, nos podcasts, nos meilleures adresses, nos coups de cœur, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster. On commence cette émission par un hommage à Françoise Bernard.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
On cherchait à l'époque une jeune femme pour incarner un personnage de conseillère culinaire, experte culinaire, comme on l'appelait à l'époque. J'ai tenté ma chance. À partir de là, j'ai commencé à apprendre la cuisine vraiment sous la conduite de chefs cuisiniers qui travaillaient avec moi. Et là, j'ai réalisé, bien sûr, qu'eux savaient faire des choses. Moi, je ne savais pas les faire. Mais eux ne savaient pas les expliquer. Et moi, j'aimais expliquer les choses. Et les voyant faire, j'essayais de les imiter. Et je posais les questions, j'avais les réponses. Ensuite, j'ai toujours refusé le jargon. J'ai mis ça en français, un bon petit français, facile à comprendre pour tout le monde. Je crois que c'est là le début de mon métier. D'une part, la cuisine, et ensuite, savoir expliquer cette cuisine que j'apprenais à faire.
Écrire des recettes simples pour les femmes de sa génération qui voulaient cuisiner vite et pas cher. Eh bien, c'était la mission que s'était choisie Françoise Bernard, disparue cette semaine à l'âge de 100 ans. Les hommages furent nombreux cette semaine pour saluer la mémoire de cette ancienne secrétaire qui s'appelait André Jonquois dans la vraie vie et qui a publié son premier livre de cuisine, Les recettes faciles, en 1965 sous le pseudonyme Françoise Bernard. Cette Bible est entrée dans tous les foyers français avec plusieurs éditions et 1 500 000 exemplaires vendus. J'ai la dernière édition en main, Hachette Cuisine. Elle a été publiée en 2018 avec toujours autant de succès. Laurent Séminel, le phénomène Françoise Bernard.
Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a une douzaine d'années, dans le premier numéro des Cahiers de la Gastronomie. Et c'est une femme qui est novatrice dans plein de choses, parce qu'elle a fait de la radio, de la télé, elle allait au Luxembourg pour faire des émissions en direct à la télé, en passant des trucs à la douane. Enfin, elle racontait sa vie, c'était incroyable. Donc, c'est déjà une star médiatique. Et elle va proposer à Hachette de publier un livre. Et Hachette refuse, au début. Ils disent, attendez, on est une maison sérieuse, on ne va pas faire des livres de cuisine, quoi. Et aujourd'hui, Hachette, c'est 65% du marché du livre de cuisine. Donc,
c'est ça.
C'est vraiment une femme qui a changé complètement le monde de l'édition culinaire et même de la cuisine et de la médiatisation en tout cas de la cuisine.
Et notamment avec ce livre, Les recettes faciles de Françoise Bernard. Allez, je l'offre à Manon Fleury, ça vous dit ou pas ?
C'est intéressant.
C'est intéressant, mais vous pourrez picorer à l'envi dans cette bible culinaire. Avant de plonger dans la tasse de café, une petite douceur, coup de cœur, vous avez dans une assiette en carton deux douceurs de deux couleurs différentes. Peut-être identifiez-vous quelque chose uniquement à la vue.
La guimauve ?
Oui. Alors, goûtez.
L'anis, déjà.
Pas tout à fait anis.
Pastis ?
Non.
Ça fait penser aux anis de Flavigny.
Oui.
Vous sentez pas la réglisse ?
Réglisse. Ah oui.
Attendez, elles sont pas dingues, ces guimauves ou... Non, mais je sais pas, je veux pas vous influencer, mais...
Tout à fait.
C'est très bon.
Et l'autre parfum ?
Fraise des bois, non, un peu.
Parfum naturel, de fraise. Hein ?
Ouais.
Absolument. Guimauve, fraise, guimauve, réglisse...
La réglisse est très puissante, c'est incroyable.
Oui, et c'est totalement naturel.
Une intensité absolument sidérante. Ça dévaste tout sur son passage.
C'est vrai qu'elle est assez puissante, à la fois douce et boisée. Ce sont des guimauves artisanales fabriquées par les bonbons de Julien. Les bonbons de Julien, c'est une petite entreprise fondée en 1979 et installée à Bourg-Argental. On est au sud-est de Saint-Étienne, département de la Loire. Et cette entreprise pratique vraiment une confiserie traditionnelle, manuelle, réalisé avec que des produits naturels, pas de colorants, pas d'arômes de synthèse, aucun additif évidemment. Et en plus, ils n'utilisent que des machines et des techniques du 19e siècle. Voilà. Alors les bonbons, ça reste du sucre, mais j'avoue qu'on peut les donner un peu plus facilement à nos enfants que s'il s'agissait de bonbons industriels. Et ces guimauves ont reçu la médaille d'or 2021 au prix Épicure de l'épicerie fine, un prix qui compte dans le milieu de l'épicerie fine. Les bonbons de Julien, on les trouve dans les épiceries, en ligne également sur leur site marchand. La fine équipe dont va déguster en régie, Laurent Thomas, Nicolas Delmas, Nadia Chougui et Djoubaka, qui nous propose un titre bien excitant. Ça tombe bien justement, on va se mettre les neurones en éveil pour parler café avec Laurent Séminel et Tom Clark. Silk Sonic avec le titre Skate. Bonne journée sur France Inter. Fine ass up in the tower, the way you move like you do, ooh.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
C'est un livre concis et précis sur le café, publié en 1832, il y a donc presque deux siècles, par un de ses touche-à-tout du 19e siècle, membre de plusieurs sociétés savantes, nommé Germain-Étienne Coubard-Dolnay. Le café y est abordé sous tous ses aspects historiques, agricoles, commerciaux, gastronomiques, nutritionnels et même pratiques, puisque l'ambition de l'auteur, à l'époque, c'était d'améliorer la manière dont ses contemporains préparaient le café et pour leur faire découvrir toutes les qualités du café. Laurent Séminel, pourquoi l'éditeur que vous êtes, vous avez décidé de rééditer 189 ans plus tard, si mes calculs sont bons?
J'ai pas fait le calcul.
Oui, ça doit être ça.
Je fais confiance.
Cette monographie du café ou manuel de l'amateur du café?
Moi, je publie beaucoup de rééditions, parce que je trouve que c'est assez important aujourd'hui de relire à la fois les classiques de la gastronomie française. Si on connaît l'histoire, on peut comprendre comment nos aliments sont arrivés, se sont inscrits dans notre culture, parce que la manière dont on mange, c'est quelque chose d'extrêmement culturel. C'est la phrase de Brillat-Savarin, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », c'est ce qui nous fabrique. Et puis, de temps en temps, on trouve aussi des petites pépites dans ces livres un peu oubliés, comme là, j'ai réédité le Carnet d'Anna, par exemple, d'Edouard de Pomiane, qui est un bouquin absolument merveilleux. Je vais rééditer le l'Heptaméron des gourmets d'Edouard Nignon, qui est aussi un truc absolument incroyable, quoi. Et puis voilà, après, il y a des livres comme ça qui nous permettent de comprendre, finalement, l'histoire du café, qui est tellement quotidien qu'on en a oublié que ça raconte plein de choses sur la colonisation, sur l'esclavage, sur la mondialisation, sur même la révolution. Enfin, ça raconte plein de choses de notre histoire.
L'histoire du café depuis l'Éthiopie, que l'auteur considère comme le berceau du café, jusqu'à toutes les prohibitions dont le café a fait l'objet. Il y a quand même un certain nombre de réalités historiques qu'on ignore totalement. En Turquie, en Angleterre, sous le règne de Charles X, le café effectivement est interdit.
Parce que le café, c'est pas seulement la boisson, c'est aussi le lieu. C'est Roland Barthes qui dit en fait que le café, c'est aussi une situation. C'est-à-dire qu'on passe d'une boisson excitante à une pause plutôt cool. C'est-à-dire, on va se boire un petit café, c'est le moment de détente. Donc voilà, il y a comme ça. Et puis ça reste un des deux grands produits, toujours selon Barthes, exotiques, que les Français ont intégrés. C'est-à-dire qu'il y a le café qui vient des tropiques et les pâtes qui viennent d'Italie. Ça raconte plein de choses, juste une petite tasse de café, finalement.
C'est ça, juste une petite tasse de café, mais qui peut éclairer, par exemple, les faces les plus sombres de notre histoire coloniale, par exemple. Vous avez décidé, d'ailleurs, au risque peut-être de créer une polémique, de ne caviarder, entre guillemets, dans votre réédition, aucun passage, même les plus crus, qui racontent l'implantation du café dans nos colonies, et notamment aux Antilles. Vous décidez de garder ce texte in extenso, et c'est une façon, finalement, de comprendre comment le café était décrit, présenté historiquement à l'époque.
Oui, parce que finalement, si on efface ces traces-là, tout va bien. On est des bisounours et puis la vie est belle, quoi. Mais ça reflète l'opinion de l'époque. L'esclavagisme a pourtant été aboli en France juste après la Révolution, mais ça perdure encore, quoi. Donc, dans les colonies, il se passe des choses. Enfin, les colonies qui aujourd'hui sont des dom-toms. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir, que les choses évoluent et que c'est important de savoir comment c'était avant, toujours.
Et il y a un chapitre notamment assez dur à lire, page 47, qui s'intitule « Animaux nuisibles ».
Ouais, là c'est assez... Enfin, voilà, donc parmi les animaux nuisibles des caféiers, il y a les rats, qui avaient tendance à monter dans les arbres et à manger. Et en fait, je cite le livre, enfin voilà, c'est... certains nègres étaient chargés de chasser les rats, et finalement ça devenait aussi leur nourriture. Et il raconte à un moment qu'un des propriétaires d'un caféier a vendu très cher sa plantation parce qu'il y avait beaucoup de rats, et donc ça faisait beaucoup de nourriture pour les esclaves. Voilà, c'est des trucs absolument abominables aujourd'hui, mais qui à l'époque passaient comme ça, voilà, parce que c'était la réalité de l'époque.
C'est ça. Tom Clark, vous êtes artisan torréfacteur, fondateur de Coutume Café. Vous venez aussi en qualité de préfacier, parce que vous avez préfacé la monographie du café rééditée aux éditions Menu Fretin. Vous qui défendez une vision humaniste, écologique, artisanale du café, est-ce que la lecture de cette monographie édifiante a changé votre vision du café ?
Disons, j'étais honoré lorsque Laurent m'a demandé de contribuer à ce livre. C'est ce qui m'a vraiment résonné, c'était son côté rebelle. Je m'estime un petit peu dans cette idée de débrider les a priori à l'époque, de dire les choses telles qu'il pensait, selon la science, selon ses propres recherches, et de pas retomber dans les vieilles mythes qui sont très présents toujours dans notre secteur. Et je trouvais que beaucoup de ses récits étaient très précis, jusqu'à la conservation du café, le fait de moudre fraîchement, de s'équiper avec un minimum d'outils, aussi toute la chaîne de valeur à travers la chaîne.
C'est ça. Donc il y a notamment effectivement des ricochets ou des parallèles à faire à 2 siècles d'écart entre la première partie du 19e et notre époque aujourd'hui où l'on consomme le café, et notamment des vérités qui existent encore. Je crois que vous avez été assez marqué par le chapitre sur le moulin à café, qui est vraiment un objet de notre quotidien assez iconique en France.
Absolument. C'est l'outil principal qu'on doit s'équiper pour vraiment apprécier le café dans toute sa fraîcheur, dans toute son intensité. C'est d'acheter en grains et de moudre à la demande, à la consommation, sa quantité nécessité. Bien entendu, en France, si on passe dans quelques marchés le week-end, ou en Chine le dimanche, tel qu'aujourd'hui, on aura des moulins Peugeot, des boîtes en bois assez rudimentaires.
Ah, vous évoquez ce fameux moulin qu'on trouvait dans les cuisines de nos grand-mères. Hein.
Ma mère fait la collection des moulins à café.
Ah,
carrément. Il y en a des milliers chez elle.
Et c'est un truc assez français.
Et on peut
fait.
Toujours s'en servir ou ça...
On peut, après c'est une question de conditions. Aujourd'hui, on privilégie bien entendu des meules par rapport d'une lame. Bien entendu, l'axe, son état, la qualité des meules est aussi très importante. Mais disons, la technologie n'a pas bougé. Une iota, on est un axe avec des meules, voilà, qui vont moudre de manière très constante le café en grains.
Et toujours le principe d'une manivelle que l'on tourne. Dans le moulin Peugeot, il y avait un tiroir que l'on retirait, qui était une espèce de réservoir. Hein.
Moi, je m'en suis servi de ça.
Moi, j'ai une question, parce que dans le livre, il y a un débat entre moudre son café et utiliser un pilon.
Ah.
Et les auteurs de l'époque ont l'air de dire, bon, si vous vraiment voulez faire du bon café, il faut utiliser un pilon. Les Turcs font ça, et il y a même des pilons qui, au bout d'un moment, valent une fortune, parce qu'ils ont tellement... pilonné de café.
C'est immersé dans l'histoire du café. Là, ça, c'était un point dont je ne suis pas d'accord scientifiquement parlant, mais c'était intéressant déjà qu'ils se posaient cette question. Disons, si on parle scientifiquement de l'infusion du café, on recherche une taille de particules très précise et constante. Je donne souvent le parallèle, si on veut bien faire un bon barbecue avec 15 entrecôtes de taille et de forme différentes, on aura du mal à avoir une cuisson égale.
C'est ça. Donc il faut une granulométrie régulière.
Exactement.
Et ça, c'est ce coffre, justement, le moulin à café. En tout cas, on sera d'accord sur une chose, et c'est peut-être une des phrases ou conclusions importantes de Germain-Étienne Coubard-Dolnay, qui écrit en 1832 « On ne doit moudre que la quantité que l'on veut employer immédiatement. Quelque soin qu'on prenne de l'enfermer dans des vases bien clos, il perd toutes ses propriétés aromatiques lorsqu'il a été moulu d'avance. » Comment vous l'expliquez ? C'est un peu comme le poivre ou les épices. On moue au dernier moment.
Exactement, c'était parfaitement précis. Le café est très sensible à l'oxygène. Il a déjà beaucoup de volatiles qu'on va libérer au moment de moudre. Et le but, c'est de pouvoir garder cette bénéfice des arômes sous le nez au moment de préparer son café fraîchement le matin. Le café, même si on ajoute de l'azote, si on le met dans un sous-vide, peu importe c'est ce qu'on fait, une fois moulu, il faut procéder à l'infuser dans les minutes qui suivent.
C'est ça, et c'est exactement ce que vous allez faire, démonstration en direct de Tom Clark sur le plateau dont on va déguster. Il y a un moulin, alors un peu plus moderne que le fameux moulin Peugeot qu'évoquait Manon Fleury, bien sûr. Alors allez-y. Ah, il tourne de la manivelle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire quelle origine de café vous êtes en train de moudre ?
Alors aujourd'hui, j'ai ramené 2 origines. Chez Coutume, on adore les terroirs et on est strictement dans les origines pures. J'avais entendu qu'une de nos invitées n'aime pas forcément le café. Et du coup, j'ai un
tous les regards se tournent vers Manon Fleury.
Du coup, j'ai un profil qui va commencer dans les minutes qui suivent, qui est plutôt accessible. Bon, je ne vais pas vous décrire toutes les notes pour ne pas trop vous influencer, mais c'est un café très accessible. Ensuite, on va revenir au berceau du café en Éthiopie dans un deuxième temps.
Alors, le premier donc... On dit que c'est un café colombien, et quelle méthode d'extraction allez-vous utiliser ?
Alors, c'est un carafe qui s'appelle un Chemex. C'est créé par un chimiste américain, justement. Il se trouve déjà dans le Museum of Modern Art à New York,
oui.
Cet objet.
Ça ressemble un peu, en fait, à un sablier, hein, en verre.
Je l'ai ramené un peu en anticipation de notre invité sommelier, parce que je trouve qu'il a une vraie semblance aux carafes à vin.
Oui, c'est ça. Ça ressemble aussi à une carafe à vin, c'est vrai.
C'est très élégant.
Exactement. On peut d'ailleurs servir un café-filtre dans un verre à vin, qui est très intéressant. Vraiment mettre son nez en plein contact.
Le principe, c'est que, pour nos auditeurs qui, par définition, n'ont pas l'image, c'est d'installer un filtre Dans la partie supérieure ?
Exactement. On a un papier filtre très dense. C'est une des particularités de Chemex. Du coup, on aura un café très propre. On va vraiment filtrer toutes les particules fines à travers ces papiers filtres. Je l'ai préinfusé à l'eau chaude pour éliminer le côté un peu poussiéreux, le goût du papier.
Un peu carton,
ouais. Réchauffer mon récipient en amont pour éviter un choc thermique. Je rajoute une quantité qui est équivalente de 60 grammes au litre d'eau. Du coup, aujourd'hui, je vais extraire, avec 600 millilitres d'eau, je vais extraire à partir de 36 grammes de café.
6 grammes de café par 100 milligrammes d'eau.
Exactement.
On est d'accord. Vous avez disposé donc du coup ce café fraîchement moulu dans le filtre et...
Et on va faire une pré-infusion. En général, on va rajouter le double du poids du café. Je vais faire un tout petit remuage pour anticiper que toute la mouture soit en contact avec l'eau.
Oui.
Pendant 30 secondes, on veut libérer ces gaz.
Ça fait de la mousse d'ailleurs.
Exactement. On a les huiles qui sont déjà sorties tellement la torréfaction est à pointe. Là, je suis avec une eau minérale que j'ai chauffée à 96 degrés.
Ah oui, c'est précis quand même.
C'est précis.
C'est l'horlogerie en fait.
Et tout simplement, j'ai une mouture qui est adaptée aux méthodes, une mouture assez grossière, un peu comme du sucre roux. Et je cible un temps d'extraction de 3 minutes 30 à 4 minutes.
Et c'est un rituel, à condition évidemment de bien se renseigner pour voir comment ça fonctionne, que l'on peut pratiquer à la maison, quotidiennement. Avec finalement des accessoires qui ne coûtent pas si cher que ça en plus, hein, bien moins cher que des machines à café.
C'est exactement ça. Avec une centaine d'euros, on peut s'équiper avec des accessoires de base. Il faut revenir vraiment sur les matières premières, la qualité du café, sa fraîcheur de torréfaction, la qualité d'eau qui joue un grand, grand rôle, sachant que dans un café filtre, on est plutôt vers 98% d'eau. Du coup, ça joue un rôle au-delà de la dissolution des solides, d'un rôle très important. Si on fait le chiffrage par rapport du coût, une capsule, souvent on est dans les 50 euros et plus le kilo. Un café de spécialité chez un torréfacteur tel que nous, on va pouvoir en acheter à partir de 30 euros le kilo. Du coup, on se rend compte qu'avec un café de spécialité qui aurait valorisé une chaîne humaine et un terroir de manière très précise, reste très accessible par rapport de ces conditionnements qui restent très coûteux.
Question, Jérôme.
Quelle est la nature de l'eau que vous utilisez ? J'imagine que c'est bien spécifique.
Oui. Là, j'ai acheté sur la route du Volvic. Là, les bons minérales, en fait.
D'accord.
On cherche à la fois un bon équilibre entre le magnésium, le carbonate. Et on peut obtenir une eau très correcte avec un filtre domestique aussi.
D'accord.
Alors, nous sommes à 3 minutes. On a encore une petite minute et on va vous faire déguster.
Vous écrivez, Tom Clark, dans votre préface, ce constat assez intéressant. Un nouveau chapitre s'ouvre actuellement en France, stimulé par une communauté jeune qui puise son inspiration dans un mouvement international, et notamment anglo-saxon. Ce mouvement, dénommé Specialty Coffee, café de spécialité, c'est bien ça, a pour objectif d'approfondir notre connaissance du café, puis d'en améliorer la qualité.
Exactement.
Vous essayez de valoriser toutes les étapes du café, depuis la culture jusqu'à l'extraction, en passant par la torréfaction. Et ça, c'est une façon de lutter contre un café trop mondialisé, trop standardisé ?
Effectivement. Le café, tellement bien décrit dans ces manuels, est source des grosses économies qui étaient monopolisées par plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, le café des spécialités a pour mission de rendre déjà le pouvoir aux consommateurs avec de la transparence, des informations, du savoir-faire, de la partage. Tout ce qu'on peut pas nous empêcher une multinationale, parce qu'on aura tous un palais, tous un cerveau et l'intelligence de pouvoir goûter, décider nous-mêmes. Et le café des spécialités, ça s'inscrit dans cette démarche de vraiment transmettre une passion, des outils pour que le consommateur puisse faire ses voyages.
Il est décrit justement dans ce livre, Laurent Séminel, le début de la mondialisation du café. C'est quand même le principe de cette matière première dont on ne savait pas tellement au début si elle allait avoir du succès. Et finalement, l'auteur précise que c'est devenu un besoin général, et notamment en France. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce mouvement qui tend à revenir vers... l'artisanat, à se détourner de la mondialisation du café ?
On ne peut pas se détourner de la mondialisation parce que, en fait, le café a ça comme particularité, c'est que les gens qui le produisent ne le boivent pas et les gens qui le boivent, enfin les pays qui le boivent, c'est surtout les pays du Nord, n'en produisent pas. Donc c'est un produit mondialisé. Mais qui dit mondialisation, on ne dit pas forcément que ce n'est pas bien. Ça permet aussi à des pays en voie de développement d'avoir une économie et de vendre un produit relativement cher. Enfin, c'est plus cher qu'un kilo de pommes de terre. Et donc ça, c'est intéressant. Enfin, c'est une mondialisation heureuse, comme dirait...
C'est ça. Mais il y a quand même un paradoxe en France entre, d'un côté, le café qui est quand même aux mains de gros acteurs, soit des distributeurs qui ont des situations monopolistiques, soit des acteurs industriels qui encapsulent, je ne vise personne, ou plutôt aussi qui encapsulent le café. Et de l'autre, on a effectivement une scène constituée de nouveaux artisans qui vont sourcer eux-mêmes leur café, oui, qui procèdent à une torréfaction artisanale, qui accessoirement veulent faire aussi par conviction un café écologique.
Oui, monsieur, c'est super intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur le café qui est finalement devenu tellement quotidien qu'on oublie tout ce qu'il y a derrière. Enfin, quand on voit Tom préparer le café, c'est un vrai cérémonial, quoi. C'est pas du tout j'appuie sur le bouton et puis ça coule et puis s'il y en a trop, je mets au micro-ondes et je réchauffe. Même si d'ailleurs dans la monographie du café, il parle à un moment du café réchauffé en disant il faut faire réchauffer son café, c'est encore mieux. Alors, ce qui paraît un peu... Bon, là, je le vois qu'il est en train de devenir...
Au mieux le boire non. Froid, non ? C'est pas
et,
ça ?
Soit il faut le préparer chaud et le consommer chaud, oui. Soit il faut le préparer à froid et le consommer froid. Il ne faut jamais inverser l'ordre de, thermique.
On parle même de la méthode de préparation du café avec l'ébullition. Moi, j'ai toujours entendu ma grand-mère dire...
Café bouillu, café foutu.
L'ébullition est déconseillée dans le livre. Enfin,
elle est expliquée, en tout cas.
C'est une des pratiques.
Preuve que c'est pas l'une des pratiques de l'époque.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire du café turc, du coup ?
Alors, c'est une cérémonie fantastique qui garde sa valeur, bien sûr. Techniquement, on va se chauffer l'eau avec le contact du sable très chaud. Et du coup, on va dépasser la température ciblée pour l'infusion. Du coup, on aura quand même une surextraction. D'accord. On va extraire trop de solide. C'est ce qui va ramener un peu d'amertume.
D'accord.
On est en train de déguster le café que Tom a versé dans nos tasses. El Credo, vous en pensez quoi de ce cru colombien ?
Moi, je trouve que c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de boire. C'est une infusion. Mm-hmm. C'est un vrai changement dans la mentalité au niveau de la consommation du café. Et moi, qui justement n'est pas très adepte du café, je bois beaucoup plus facilement ce genre de café. Et quand on parle d'acidité, moi, je trouve que là, il n'y a pas d'acidité. Il y a un côté très enrobant qui est assez intéressant.
Ça fait l'effet un peu d'un jus de fruits acidulé avec des notes de pomme quasiment, il y a quelque chose de très gourmand en même temps et très équilibré en termes aromatiques. Jérôme, oulala, je crains le pire.
Non, bon, moi c'est vrai que j'ai une dilection particulière pour le café de type italien, c'est-à-dire des cafés qui sont extrêmement corsés, plus gras que ça, plus denses que ça. Je reconnais ici, c'est très subtil, il y a un très bel équilibre, l'acidité est très présente mais elle est très fine. Je dirais que c'est un café d'après-midi, c'est un café que l'on sirote, ça n'est pas le café tel que moi je le consomme après un déjeuner ou un dîner, que j'accompagne parfois d'un cigare, parce que c'est un accord extraordinaire, le cigare et le café. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai une consommation de café qui ne ressemble pas à ce type de café. Il n'en reste pas moins que c'est très subtil et très fin.
Vous pensez quoi de ce café, Laurent ?
Mais El Credo. Moi, je trouve ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on a deux boissons différentes, enfin, le café filtre et le café expresso. Quand vraiment c'est bien fait, on s'aperçoit que c'est deux boissons complètement différentes qui effectivement peuvent se boire à un moment différent. Alors que plutôt à la maison, on se dit que c'est un peu la même chose, c'est du café quoi. Et là, fait comme ça, c'est intéressant parce que ça fait redécouvrir le café filtre qui est souvent un peu malmené quoi.
Et quasiment une infusion de café, moi je trouve ça vraiment superbe d'équilibre et de subtilité.
Moi, je donnerais même le parallèle que le café filtre, c'est le vin du café. L'espresso reste pour moi les digestifs, en fin de repas avec un bon cigare, par exemple. Mais effectivement, il ne faut pas confondre les deux méthodes qui sont très différentes. Là, on aura juste une infusion à la gravité, sans pression, de quoi qu'il en soit. On est quand même sur une ambition de vraiment dévoiler le café, d'avoir vraiment toutes ses finesses. Et c'est ce qui est intéressant dans une méthode douce, cette subtilité.
On va continuer évidemment à débattre autour du café. Vous allez nous en extraire un deuxième cru dans un instant, mais on vous propose en attendant une petite alternative au café. Elle est expliquée et cuisinée par Manon Fleury.
On va déguster sur France Inter.
Est-ce que vous avez aussi ce petit goût qui reste sur le bout de la langue, là, ce petit goût un peu indéfinissable, mais en fait c'est ce goût un petit peu torréfié.
Oui, absolument.
Moi je me suis intéressée à ce goût torréfié et à la manière dont on peut le retrouver. Et comme j'aime pas particulièrement notamment les effets de la caféine sur mon corps, en général ça me donne des pics d'énergie en cuisine.
Des palpitations.
C'est pas vraiment bon d'ajouter du stress. Et moi j'ai essayé donc de trouver des équivalents au café, des alternatives au café. Et quand on s'aperçoit de ce qu'on trouve en France, la boisson majoritaire, c'est la chicorée, on connaît l'histoire, qui vient du Nord, qui a été très présente pendant les deux guerres mondiales, etc. Moi, je me souviens encore de ma grand-mère qui trempait ses tartines de cancoyote dans la chicorée le matin. Et donc, ça ne m'a pas laissé forcément un goût très chic, même si je sais que ça revient vraiment à la mode. Je sais que Florent Laden en sert même dans son restaurant. Je l'ai goûté il n'y a pas très longtemps.
Substitut de café, il y en a toujours eu, presque, depuis qu'il y a du café, finalement, et avec des choses plus ou moins étonnantes. Il y a même le gland de chêne.
Il y a le gland de chêne, oui, c'est ça.
Là, parce c'est un peu sauvage, quand même. Là,
oui,
pour,
c'est ça.
Pour le coup, là...
Oui, c'est un peu violent.
Ouais, moi, je voulais vous parler donc de cette boisson qui est moins connue des Français, et pourtant, elle est très présente à l'étranger, notamment en Italie. Alors qu'on penserait que l'Italie, c'est quand même le pays du café. Et on trouve cette boisson qui s'appelle le café d'orzo. Et puis, on le trouve aussi au Japon, dans une version un peu différente, mais toujours avec ce goût torréfié, qu'on appelle mujicha. Mujicha, ça veut dire littéralement thé d'orge. En France, on appelle ça café d'orge, et on trouve cette boisson en Bretagne majoritairement, parce qu'on s'aperçoit qu'en Bretagne, on produisait de l'orge, et qu'en fait, comme vous expliquez Laurent, dans les régions rurales, quand on n'en trouvait pas, donc majoritairement pendant la guerre, mais aussi bien avant, au XVIIIe siècle, quand on n'avait pas les moyens de s'offrir du café, on utilisait ce qu'on avait sous la main. Donc ça pouvait être des céréales, ça pouvait être des légumes, ça pouvait mettre donc des racines. On pense à la chicorée. Et en fait, donc pour faire ce café d'orge, on utilise le malt, comme pour la bière, et de l'orge germé, on vient le torréfier, et au moment où on le torréfie, ce malt dégage donc des arômes vraiment communs au café, des arômes de pain grillé, de noisettes, de caramel. Là, je vous en ai servi une tasse.
Alors là, il y a une boisson un peu sombre, c'est ça
le... Un peu sombre, qui ressemble, à s'y méprendre, à du café. Moi, j'ai décidé de le faire glacer. Je ne savais pas, Tom, qu'en fait, on n'avait pas le droit de casser la chaîne de chaleur du café. Moi, j'adore l'ice coffee. Ayant vécu aux États-Unis, ça a été vraiment une découverte et j'en buvais pas mal.
Ah oui, donc pas totalement réticente au café non plus.
Non, j'ai fait mon mauvais esprit, mais j'aime quand même ça. Et donc là, j'ai fait une sorte donc, de café glacé en mélangeant... Donc, une infusion d'orge que j'ai faite à chaud dans une cafetière à piston. Je l'ai laissé infuser environ 3 minutes et je l'ai fait refroidir.
C'est bon.
Si vous voulez le faire minute, vous pouvez évidemment ajouter des glaçons. Moi, j'aime bien utiliser un shaker parce que ça fait un peu de la mousse. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'aime bien. Franchement, effectivement, on est dans l'univers torréfié, des notes un peu grillées, côté fruits secs, très agréable.
Et qui peut satisfaire, je pense, cette envie de torréfier, notamment le matin. Je pense que ça peut tout à fait convenir à certains palais. Ensuite, j'ai découvert une autre boisson qui s'appelle le mujicha. Je suis assez dingue de cette boisson. Je trouve que, en fait, c'est la boisson nationale qu'on boit l'été au Japon. Ce que vous disiez tout à l'heure, Tom, c'est que c'est une infusion à froid, qu'on peut faire une infusion à froid et assez rapide, de 15 minutes. Plus on prolonge l'infusion, mieux c'est. Donc moi, j'aime bien la laisser infuser toute la nuit. Et là, j'ai fait une boisson assez désaltérante qu'on peut boire l'été, avec un peu de chair de figue que j'ai écrasée à la fourchette et que j'ai mélangée avec du jus de citron. Et j'ai rajouté donc mon infusion de mujicha que j'ai fait pendant la nuit, que j'ai filtrée et que j'ai mélangée à ce petit mélange de figues, toujours dans l'esprit thé glacé, pas loin de ce qu'on pourrait boire avec dans un thé à la menthe. Et avec la matière de la figue, moi, je trouve qu'il apporte ce petit grain.
Quand on va chercher la pulpe de la figue à la cuillère,
qui est assez intéressant,
ça fait une espèce de soupe froide infusée. Ouais. C'est vraiment délicieux.
Vous pouvez aller en déguster dans un restaurant que j'adore qui s'appelle Candide, qui nous offre en ce moment un mujicha au sirop de prune fermentée. Aussi à l'apéritif, ça marche très très bien.
On est dans le 19e arrondissement de Paris. Hein.
Exactement.
Candide, de Alessandro Candido.
Camille Alessandro.
Oui, Camille, sa femme, évidemment.
C'est délicieux ce mujicha.
Ah ouais,
absolument,
c'est
délicieux.
Régal. À ne pas confondre avec le soba cha.
Exactement, qui est du sarrasin grillé.
Du thé de sarrasin. Là, on est vraiment sur le thé d'orge japonais.
Thé d'orge. Et pour terminer, donc j'ai fait une petite recette donc à base. Ce qui est assez intéressant, j'ai récupéré le moût de mon café d'orge. Et donc, je me suis demandé ce qu'on pouvait en faire, parce que vous savez que j'ai une petite tendance à vouloir ne rien jeter. Et donc, j'ai mis ce moût de café à infuser dans la crème. Et j'ai réalisé un flan en blanchissant mon sucre et mes œufs et en mélangeant avec ma crème qui a été infusée au moût de café. Et j'ai cuit de l'orge pour ajouter de la texture et pour avoir ce côté un peu entre le riz au lait, le flan, très ménager. Moi, je l'ai fait avec de l'orge, mais on peut tout à fait mettre du café. Et c'est un dessert que je sers dans le restaurant dans lequel je travaille en ce moment. Et c'est aussi une alternative dans laquelle on peut faire infuser d'autres choses, d'autres céréales aussi. Sarrasin café, ça marche très très bien. Donc c'est une base qui fonctionne avec tout type d'infusion.
Vous travaillez où en ce moment, Manon ?
Je travaille dans un restaurant à Roquebrune, Cap-Martin.
Vous pouvez nous en dire plus, Elsa.
Au restaurant Elsa, oui.
La pudeur vous interdit de le préciser.
Exactement.
Manon Fleury fait des choses épatantes. Voilà, petit instant promo. Dans le restaurant Elsa, à Monaco, tout en bio hein, d'ailleurs.
Tout en bio, avec des produits bio.
Et ce flan, bravo, hein. C'est pas du
incroyable.
Flan.
C'est très très bon, félicitations.
Ah non, c'est vraiment un vrai régal avec toutes les notes torréfiées, là encore, de la céréale. À retrouver sur franceinter.fr à la page, on va déguster. On va faire une petite pause musicale, mais Tom Clark va se mettre au travail. Et ben vous allez jouer la musique à la fois, du moulin à café. Et on se tourne du côté de ce qu'on appelle aussi la French Press. Vous nous expliquez tout ça. juste après les jolies choses Polo et Pan.
Le parfum de cette forêt de pin, le sable qui coulait entre tes mains, un sorbet de groseille au sel marin, le lever du soleil de bon matin, faire l'amour au réveil avant midi, le petit déjeuner servi au lit, s'embrasser mouillé, se mettre à l'abri, caresser par le vol d'un colibri. Mais peu à peu mes souvenirs.
Tout d'abord, avant de continuer à parler de café, Manon Fleury, une précision. Beaucoup d'auditeurs nous demandent sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter, mais aussi sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com les références de cette orge. Oui. Torréfié, il est français, made in France, hein.
Il
vous avez dit Bretagne.
France, il vient de Bretagne, d'un producteur qui s'appelle Johan Guéry. Donc vous pouvez le commander sur le site internet qui est très très bien fait. Et vous pouvez le trouver à Paris, moi je l'ai trouvé dans une épicerie qui s'appelle Olé Cru, qui vend que des produits bretons, que vous connaissez. François Régis, il m'a dit que monsieur vous connaissait.
Oui, absolument, je connais en effet, et ce produit en tout cas, en plus, ça le mérite effectivement d'être 100% made in Bretagne.
Oui.
Beaucoup de réactions d'auditeurs et notamment une question, Laurent Séminel, sur le mocha. Il est vrai que à l'époque où Germain-Étienne Coubard-Dolnay écrit ce livre, le Graal, la référence absolue, c'est ce que l'on appelle, dans ce livre en tout cas, le café d'Arabie, le mocha.
Tout à fait. Parce qu'en fait, mocha, c'est un port. Et c'est par là que transitait le café. Donc, c'était du café qui venait de mocha. Mais c'est pas là où il était produit. Mm-hmm. Parce qu'il était produit, en fait, majoritairement au Yémen, dans ce qui s'appelait à l'époque l'Arabie heureuse. Bon, aujourd'hui, malheureusement, le Yémen est moins heureux. Voilà,
oui.
Moins heureux.
C'est même un pays dévasté.
C'est un port qui était connu avant même le commerce du café. Et puis, voilà, bon, ça a pris. Et ça a donné aussi le nom de gâteau, puisque un mocha, c'est un gâteau, une pâte génoise avec du café.
Mocha, M-O-K-A. Ah, et même le surnom de cette cafetière italienne à facettes en aluminium.
Effectivement, popularisée par la marque Bialetti,
oui.
Cafetière italienne, mais qui a repris aussi cette terminologie mocha. Également, qui représente une boisson dans des coffee shops avec du chocolat et un espresso.
C'est
pas très puriste, mais ça existe.
Mais alors, quand on dit mocha aujourd'hui, si on parle que de café, on parle donc de cette préparation ou on parle d'une origine, d'une variété?
C'est assez vague. Il y a plusieurs façons de l'écrire, avec un K, deux K, CH, etc. Sachant que le café reste quand même d'origine éthiopienne.
Et ben voilà, la transition est toute faite vers le café que vous nous préparez, puisque l'Éthiopie est aussi beaucoup évoquée dans la monographie du café, comme le berceau de cette matière première. Et là, vous nous servez justement un pur origine, d'origine éthiopienne.
Exactement. Là, on va au berceau quasiment plus près possible, dans la région de Sidama. On est des variétés endémiques, ce ne sont pas des cultivars, ce sont des variétés sauvages, propres au terroir éthiopien. Du coup, pareil, j'ai respecté mon grammage de 60 grammes pour un litre d'eau. Je suis avec un French press, une cafetière à piston.
Ouh là là, French Press. Alors là, pour le coup, cet appareil n'est pas décrit dans ce livre qui date de 1832, et pour cause.
Ça a été inventé en 1852. Donc
c'est ça.
Il n'était pas visionnaire, notre auteur préféré.
Alors, French Press, il y a French. Dans French Press, on parle effectivement de cette cafetière à piston, qu'on appelle aujourd'hui communément d'ailleurs du nom d'une marque. Hein. Tom, c'est la Bodum.
Souvent.
Est-ce qu'elle est French d'origine, cette presse?
Il me semble qu'il y avait un brevet posé en France.
Ce sont deux Français qui l'ont inventé, en fait.
C'est ça.
Ça s'appelle Meilleur et Delforge. Il y a énormément d'inventions françaises autour du café, d'ailleurs.
Oui. Parce qu'on avait inventé la machine espresso, il y a des arguments. Pendant la foire internationale, il semble que le brevet était enregistré par les Italiens, mais que la technologie restait française.
Et là, le principe, ce que vous avez fait, racontez-nous, évidemment, mouture fraîche. Vous avez disposé la mouture dans ce qu'on pourrait appeler cette carafe, en fait. Et ensuite, extrayez par pression.
Exactement, c'est une immersion statique, du coup il n'y a pas de papier filtre. On va avoir, par définition, beaucoup plus de gras, parce que tous les gras ne seront pas filtrés par le papier. Je vois que mon sommelier, il est content.
Ah non, c'est bien, on a un sacré truc dans la tasse.
Et on attend 4 minutes et on presse doucement.
C'est ça. Et ça, ça peut être une très belle façon, encore une fois, pour un appareil, on s'est renseigné, qui coûte entre, franchement, 20 et 100 euros.
C'est très accessible, j'en suis sûr que tout le monde va l'avoir dans son placard, peut-être à côté de son moulin. Du coup, vous sortez les deux, et voilà, vous êtes déjà très bien.
Dites-nous le nom de cette cuvée, enfin, de ce cru, pardon, parce que je pense qu'il va avoir du succès auprès de nos auditeurs.
Alors, c'est l'origine qui s'appelle Abagona, Moplaco. Abagona, c'est un nom local. Moplaco, c'est la station de lavage. C'est un café qui est retiré de sa pulpe, fermenté à l'eau de manière très précise. C'est une récolte de l'année dernière. La variété endémique d'Éthiopie, ils sont très connus pour le côté floral, fruité, mielleuse.
Il est très ample et très complexe. Moi, je trouve qu'il a tout ce café. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Gagnès?
Il y a plus de densité que dans le précédent.
Gagnès content.
Gagnès assez content.
Wow.
Je dois reconnaître que là, il y a beaucoup de complexité et c'est très fin. C'est superbe. Hein. C'est très long, c'est très intense. C'est un très beau café.
Manon.
C'est très très bon. J'adore. Je trouve que l'équilibre est super intéressant. Et justement, ouais, il y a plus de matière. On n'est pas loin du côté fumé aussi. Hein. Il y a ces notes boisées assez intéressantes.
Vous changez, vous bousculez un peu les marqueurs gustatifs du café en France. On est peut-être en France un peu prisonnier d'une culture. C'est souvent comme ça, quand on a un patrimoine derrière nous et une culture très importante, il est difficile de sortir un peu de ces moules ou de ces schémas prédéfinis. D'ailleurs, Elena de Marseille nous écrit « Il est impossible d'aller dans un coffee shop qui prétend faire un bon café sans tomber sur des boissons trop acides qui restent sur l'estomac. L'acidité ne serait-elle pas devenue un diktat un peu trop excessif du café en France ?»
Alors, merci pour ces commentaires. Sachant que l'idéal, c'est qu'on recherche, c'est l'équilibre entre l'amertume, l'acide et le sucre. Voilà, c'est cette symbiose des trois qui font un café équilibré. L'acidité va ramener, comme dans le vin, de la longueur en bouche, de la légèreté. Ça va nettoyer un peu le palais, ça va vraiment ramener de la longueur en bouche. Si on retombe sur une note très amère en fin bouche, ça va assécher un peu le palais, on va chercher un verre d'eau et basta. Du coup, c'est vraiment un équilibre des trois, voilà, famille importante. L'acide était méconnu en France, comme beaucoup de pays très anciens, comme en Espagne, au Portugal, l'Italie, où le café était par définition une matière première assez basique, souvent avec des mélanges robusta, qui a pas beaucoup de propriétés aromatiques gustatives intéressantes. Par définition, il fallait le brûler pour un peu éliminer les défauts, pour qu'on goûtait que de l'amertume. Et on nous disait que le café est amer. C'est le but.
Donc l'amertume, pour vous, est plutôt un défaut. D'ailleurs, il y a un mot emblématique. Quand on parle de brûlerie, pour définir ce commerce du coin qui torréfie le café, la brûlerie, c'est tout est dit. C'est-à-dire qu'on matraque un peu le grain de café avec, selon vous, des torréfactions excessives.
Effectivement, c'était une manière très basique au départ. Maintenant, on est équipé avec des torréfacteurs de convection chez nous, avec des sondes thermiques. On va suivre des courbes de torréfaction pour pouvoir les reproduire. On va déguster chaque lot, on va peaufiner nos courbes de torréfaction. Chez nous, la torréfaction, c'était un véhicule pour transmettre le terroir à la tasse. Du coup, c'est un véhicule. On ne veut pas que la torréfaction prenne la dominance. On sent que de la torréfaction, c'est qu'on n'a pas fait notre travail parce qu'on aurait la volonté d'exprimer un terroir de manière beaucoup plus subtile.
D'ailleurs, j'ai vu Tom Clark, puisque je suis allé me faufiler dans votre atelier rue Martel, dans le 10e arrondissement de Paris, déguster à l'aveugle des origines. C'est tout à fait incroyable. Hein. La preuve qu'on peut retrouver un terroir dans une tasse, c'est que vous le retrouvez en le dégustant. Preuve que la torréfaction respecte suffisamment le café pour que l'on puisse déterminer son origine.
Exactement. C'est pas une science mythique, quoi qu'on dise, c'est une science objective. On est tous équipés avec des palais, un intellect. Du coup, je vous invite à aller faire votre aventure, parce que le café, une fois plongé dedans, on n'y revient pas. On ne peut pas se contenter d'aller au supermarché et de prendre celui qui est en promo. On va aller à son torréfacteur, on va goûter, on va demander quelles sont les récoltes récentes. Et c'est tout un discours, un échange qui est vraiment fantastique.
Et on a du mal à revenir au petit noir, hein, qui est ce café expresso qu'on boit sur un bout de zinc, et qui a de temps en temps des arômes de pneus brûlés. Il faut quand même bien le reconnaître.
Oui, ça c'est sûr.
Y a-t-il du café dans le vin ? C'est la question qu'on se pose avec Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Alors, pendant que je vais parler, je vous invite à goûter à la fois le vin que vous avez dans votre verre, ainsi que la pâtisserie qui est dans votre assiette.
Oula, mais c'est un festival aujourd'hui.
Alors, tout à l'heure, j'ai dit, on va rendre le vin muet. Ça faisait référence à une opération qui a lieu au cours de la vinification de ce vin, qui s'appelle le mutage.
Ah.
Et muter un vin, c'est étymologiquement, ça veut dire le rendre muet. Autrement dit, on ajoute de l'alcool dans le mou en fermentation, et cet alcool va stopper la fermentation, tue les levures, et donc le vin se tait, puisqu'il cesse de fermenter. Je vous parle d'une appellation qui fait 1800 hectares sur le papier, mais dont aujourd'hui, on ne fait plus que sur 200 hectares du vin doux naturel, c'est le Mory.
M-A-U-R-Y.
Exactement. Mory est un village qui se trouve à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan, à l'ouest de la mer, Méditerranée, au piémont des Corbières. C'est des schistes noirs, c'est des terroirs qui donnent des vins puissants, qui donnent des vins robustes, non sans finesse quand le vigneron travaille bien, mais des vins puissants. Et puis il y a cette très ancienne tradition de production du Mory qui n'est pas un vin cuit, je vous en supplie, cessez de penser que le Mory est un vin cuit. C'est un vin, le vin cuit, c'est une spécialité provençale dont on parlera peut-être un jour dans cette émission qui est absolument formidable. Mais le Mory, c'est ce qu'on appelle un vin doux naturel. Autrement dit, donc, comme je viens de vous le décrire, on récolte des raisins bien mûrs, du grenache et éventuellement du carignan. Mais la bouteille que nous avons ici, du domaine Poudrou, c'est du grenache. On le fait macérer, il fermente. Quand on arrive à peu près à, en gros, la moitié de la fermentation, les deux tiers, c'est le point de mutage. Alors ça, c'est la science du vigneron qui intervient là. On ajoute de l'alcool neutre dans le vin, ça stoppe la fermentation, et donc tout le sucre qui n'a pas été transformé en alcool reste à l'état de sucre résiduel dans le vin. Nous avons ici 90 grammes de sucre résiduel. Et on fait ce qu'on appelle un mutage sur grain, c'est-à-dire que les grains de raisin, ils sont en train de macérer au cours de la fermentation. C'est ce qu'on appelle la cuvaison. Et l'ajout d'alcool, qui est un solvant, eh bien, ça va permettre d'obtenir plus de couleurs, plus d'arômes et plus de structures. Et puis ensuite, ce vin, il est mis dans des fûts et on va le laisser dans des fûts pendant quelques années. Alors là, je vais vous parler d'une méthode qui est très particulière, c'est la méthode de la solera. C'est une méthode d'origine espagnole. Le principe est très simple. En gros, très schématiquement, on a un gros fût de 1000 litres, par exemple. Et puis, on va prélever X%, mettons 20% du volume de ce fût. On va remplacer le volume qu'on a pris par le vin de l'année et on fait ça tous les ans. Et ça peut durer comme ça des dizaines et des dizaines d'années. Alors ici, au domaine Poudrou, chez Robert et Cathy Poudrou, eh bien, ce Mory hors d'âge 15 ans, en fait, 15 ans, ça veut dire que c'est le plus jeune des vins qui rentrent dans la composition de cette cuvée à 15 ans. C'est une solera qui a été initiée par le grand-père de Robert.
Donc on doit trouver certainement, si c'est la solera, des traces de millésimes beaucoup plus anciens.
Il y a des traces de vin des années 30 et des années 40. Ça donne ce vin qui développe avec l'oxydation, avec ce long élevage, ses notes d'épices, de cacao, de mocha. C'était la raison pour laquelle j'en parle. Parce que le dessert que je vous ai proposé, c'est un opéra, ce dessert qui a été créé à Paris par un pâtissier d'Aloyau. C'est un dessert qui est en fait un biscuit génoise avec une crème au beurre au café et un peu de ganache et un glaçage chocolat. Et en fait, l'accord entre ce vin qui évoque à la fois la torréfaction, qui évoque le mocha, qui évoque les épices, qui évoque les fruits à l'eau de vie, voilà un vin qui épouse les arômes du café, qui vient chercher les arômes du café et qui est à la fois le sucre et la structure et la puissance pour contenir une certaine amertume qui est apportée par le café et par le chocolat dans ce dessert.
Ouais.
Donc voilà pourquoi je vous parle de ce vin, parce que encore une fois, sur 1800 hectares, il y a plus que 200 hectares qui sont consacrés à la production de Mory. Robert et Cathy, ils peuvent faire du 15 ans d'âge parce que ils ont l'immense chance d'avoir les vieux vins du grand-père. Les jeunes vignerons font très peu de Mory, d'abord parce que ça se vend beaucoup moins, on le sait, les vins sucrés, les vins avec du sucre résiduel se vendent moins. Mais voilà un vin dont il faut absolument conserver le savoir-faire, parce que ça fait des grands vins de dessert, ça fait des grands vins de gastronomie. Servez un lièvre à la royale avec un vieux Maurice, c'est une splendeur. Servez avec des Maurice beaucoup plus jeunes, des Maurice sur le fruit, ce qu'on appelle des Maurice vendanges, eh bien vous pouvez servir par exemple des belles viandes rouges aux fruits rouges, ça fait des accords extraordinaires. Sauvons le soldat Maurice et buvons ce Maurice Ordage 15 ans de chez Cathy et Robert Poudrou.
Et combien faut-il débourser pour une cuvée pareille?
Il faut débourser 30 euros. Mais oui, mais sachant que vous avez des vins qui ont 50 et 60 ans. Il y a une immobilisation absolument délirante.
Et je vous signale un accord pas très loin de la perfection. Le Maury avec le flan et à l'orge torréfiée magnifique de Manon.
Ah oui, ça faisait un accord absolument superbe. Ah ouais. Tout à fait.
Moi, j'adore.
Tom. Délicieux. Ça me évoque un peu le Porto.
Oui, c'est ce registre-là, tout à fait.
Moi, c'est le pruneau, c'est dingue. Ouais. C'est vraiment très pruneau, quoi.
Vive le Maury.
Et on arrive au terme de cette émission. Tom Clark, on nous demande s'il faut sucrer le café. Quand on sucre le café, c'est pas bon signe, c'est ça?
C'est un très mauvais signe, c'est qu'on cache la misère. Le sucre qui est très peu cher, c'était toujours un allié de distributeur pour cacher cette misère. Du coup, demandez pourquoi il vous propose du sucre. Le café a déjà du sucre, du sucrose et du fructose. Du coup, si on a bien fait la sélection, la torréfaction, la préparation, on aurait déjà du sucre.
Donc, si on sucre, c'est pour compenser, par exemple, une amertume excessive.
Exactement.
Merci beaucoup, Tom Clark. Les adresses de la torréfaction coutume, on retrouve toutes les infos, il y a de nouvelles adresses qui ouvrent, c'est sur franceinter.fr à la page On va déguster, et les références également de la monographie du café, écrit par Germain-Étienne Coubard, Dolnay, et réédité en ce moment par Menu Fretin, votre maison. Merci beaucoup Laurent Séminel, on peut trouver où ce petit livre pour les amateurs de café?
Sur notre site, c'est le plus simple.
Ah, c'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà. www.menufretin.fr.
On parlait de
chez
café.
Chez Coutume, il faut qu'on fasse un petit distribution.
On parlait de café artisanal, et bien là il y a l'édition artisanale, il fait un travail formidable. Merci. Laurent Séminel, Menu Fretin la semaine prochaine. On boit non pas du café, mais le bouillon. Préparé de délicieux bouillons maison avec la cuisinière Kedablak qui sort un livre formidable. Et explorer la saga des bouillons restaurants à Paris avec l'historien Loïc Bienassis. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.